Après-midi à tous. Bon après-midi à tous. J'aimerais remercier cette invitation et féliciter les organisateurs de ce colloque et aussi féliciter mes collègues de tribu qui sont tous de São Paulo. Et je vais vous parler aujourd'hui le travail dont le sujet est ambiance urbaine, le théâtre de la vie dans le cœur de São Paulo. Et je voudrais vous présenter effectivement un autre projet qui est notre défi actuel. Moi, comme chercheuse d'une institution publique et qui travaille avec des projets d'intervention qui doivent trouver des solutions rapides, et nous présentons ces solutions au secrétariat de São Paulo, c'est un grand défi, mais finalement, je vais aussi présenter certaines questions parce que je voudrais profiter de cette rencontre pour enfin profiter de ce débat aussi. Bon, commençons. Ce travail, je présente une pièce de théâtre comme un instrument pour décrire, reconstruire les ambiances urbaines. Dans ce travail, nous montrerons comme une pièce de théâtre peut être une méthode pour démontrer la manifestation des ambiances urbaines. Nous allons présenter les procédures d'élaboration de la pièce de théâtre et comme une forme de décrire les manifestations des ambiances urbaines dans les différents scénarios des espaces publics étudiés. Ce travail est le résultat d'une recherche qui nous a pris plus de 3 ans et qui a commencé initialement et a subventionné un projet d'intervention dans le vieux centre de São Paulo. L'espace public que nous avons étudié, c'était Praça da República, je vais vous montrer des photos ensuite, les Français connaissent ça si bien, enfin, car c'est l'objet de notre travail de coopération, c'est la Praça da República, Largo do Arauche, Avenida Vieira de Carvalho, qui s'unit à la Praça Júlio do Arauche et Praça Júlio Mesquita. Et alors, nous avons eu comme objectif initialement comprendre comme les personnes habitant ou ceux qui fréquentent avaient un lien, quel était leur rapport avec cet endroit et comment se manifestaient les ambiances urbaines. Ici, nous avons une petite carte. Là, enfin, je ne peux pas vous montrer vraiment. Bon, ici, là, on voit la place de la République, Largo do Arauche, et c'est l'avenue Vieira de Carvalho qui unit ces deux squares. Et ici, toute cette région est la région de notre recherche. Pour ceux qui connaissent São Paulo, dans la Vieira de Carvalho, c'est un endroit vraiment spécial. Le scénario change complètement le soir. Et ici, certaines photos que vous connaissez déjà, c'est bien Largo do Arauche, Vieira de Carvalho, Praça da República, Praça Júlio Mesquita. La méthode que nous avons employée, ce travail a été partagé en 2 étapes. Une première étape où j'ai fait recueilli ces données de façon classique et je me suis approfondie anthropologiquement sur ce terrain. J'ai considéré que cette première étape a duré 1 an à peu près et j'ai considéré que c'est vraiment important de faire ce plongeon, que j'appelle plongeon, parce que j'ai découvert l'importance de l'attitude du chercheur sur le terrain. Donc, une attitude de se perdre, d'être étranger, se déraciner. Je plaisante avec Patrice. Et donc, j'ai adopté une méthode de dénaturalisation et de déconstruction de la réalité. Et là, j'ai inclus dans ce processus la question du chercheur et de son objet d'étude. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Mais en vérité, le chercheur se transforme au long de la recherche. Ensuite, après ce plongeon dans le terrain, il y a une seconde étape et c'est à travers de ce plongeon anthropologique que là, il y a une symbiose entre chercheur et son terrain de recherche. Et il a été capturé, disons, par son terrain de recherche. Et c'est justement à travers ce plongeon que j'ai pu connaître les personnages de cet endroit, que j'ai appelé personnages parce que là, on a construit une pièce de théâtre, et connaître, disons, avoir créé cette intimité avec ce terrain de recherche et les communautés présentes. La seconde étape a été une collecte de données subjectives où j'ai adopté, j'ai fait un interview ouvert avec les représentants des communautés que j'ai appelé de personnages et aussi on suivait le chemin présenté par l'interviewé. Donc cette méthode m'a beaucoup plu parce que j'ai pu m'approcher de celui que j'étais en train d'interviewer. La collecte de données subjectives a eu un interview ouvert comme élément fondamental et je leur demandais, s'il te plaît, parle-moi de ta vie et de ta vie dans cet endroit. Et la personne commence à expliquer son histoire de vie, enfin de l'individu et son rapport avec cet endroit. Et ensuite, je demandais de me montrer le quartier. Je lui donnais une machine pour prendre des photos. Il prenait des photos des endroits qu'il considérait importants. Et cette méthode était très importante car j'ai pu m'approcher du regard de l'interviewé. Ensuite, nous avons eu la transcription des interviews et puis ensuite nous sommes revenus sur le terrain pour faire, j'ai fait la révision de ces interviews. Et puis ensuite, nous sommes arrivés à la pièce de théâtre. Et ensuite, après ce plongeon anthropologique sur le terrain, a été un processus d'apprentissage dans lequel le chercheur rééduquait son regard dans un processus continu de dénaturalisation et déconstruction de la réalité. Donc, pour pouvoir raconter ce plongeon anthropologique, j'ai créé un narrateur de moi-même, des événements, parce que comme l'a déjà cité Todorov, les événements ne peuvent jamais se raconter eux-mêmes, et un narrateur qui va raconter cette histoire. Et là, il y a un processus de transformation dans lequel le chercheur n'est jamais neutre et jamais sort complètement complet de ce processus de recherche. Et il va porter avec lui son histoire de vie et va transformer l'endroit et se transformer. Là, comme j'ai créé un narrateur, je vais faire donc une narration pour vous raconter comment a été cette introduction au centre de la ville de São Paulo. Parce que pour moi, le centre, j'avais un rapport quand j'étais petite et puis ensuite je me suis éloignée et puis il y avait ces nouvelles de dégradation, de violence. Et là, je vais vous raconter comment a été cette introduction sur ce terrain de recherche. Je me souviens du malaise que je sentais le premier jour où je me préparais pour aller au centre. C'est en ce moment que le centre pour moi m'était lointain, présent seulement dans les images de mon enfance. Je savais que c'était une rencontre avec le passé et qu'il avait changé et que je ne savais pas ce que j'allais rencontrer par devant. Le passé fait part de la constitution de mon identité et le perdre serait la même chose que ne plus sentir le sol sous mes pieds. Le centre s'éloignait à chaque fois. En même temps, dans mon imagination se formaient les scènes de dégradation et violence diffusées par les moyens de communication. Et je pense, un événement devient vrai non parce qu'il correspond à des critères objectifs, rigoureux et vérifiés par les sources, mais parce que d'autres moyens répètent les mêmes affirmations et les confirment. Alors, ces histoires m'intriguaient. Et je voulais m'approcher du centre, le regarder de près et pouvoir vérifier ce qu'on parlait était vraiment réel. Mais à cause de certaines circonstances de vie, chaque fois, cette possibilité s'éloignait. Je crois que nos moyens de communication pourraient permettre que nous puissions compatibiliser les images et les expériences. Mais ce n'est pas ce qui se passe, parce qu'avec la révolution des communications, il y a une nouvelle dimension qui va affecter la durée et le temps vécu par les sociétés. Surtout, mes mémoires sont coupées. Je me rends compte que j'étais déjà là. Là, ici se trouve la Plaza de la République. Je vois un parking et je laisse la clé, je prends mon matériel. C'est en ce moment que je me rends compte du malaise et de mon inquiétude, surtout parce que j'écoute parler de la violence urbaine, des voleurs. Et là, je tiens très fort mon sac et je traverse la place. Dans un moment de lucidité, je me viens au cerveau que nous étions vraiment pénétrés par une trame. Et là, je me souviens des avertissements de George Orwell et Aldous Huxley contre le faux progrès d'un monde administré par une police de la pensée. Cette réflexion m'est venue car à cet instant, j'ai senti comme mon âme était déjà conditionnée. Là, je m'encourage et c'est en ce moment qu'un nouveau monde s'ouvre à moi. Je regardais perplexe le peuple qui marchait, les vendeurs, le son des voix qui se mélangeaient entre les plusieurs personnages qui s'y retrouvaient là-bas. Je me sentis urbaine dans cette São Paulo et je me suis laissée saouler par São Paulo. C'est à travers ce premier plongeon que peu à peu, j'ai redécouvert le centre, les rues, les squares, les immeubles, les points de plaisir et de travail et les personnes qui les occupent. Et suivant les propositions de Lynch, à chaque instant, il y a plus que ce que le regard peut appréhender et que l'ouïe peut entendre. Il y a un paysage, un scénario qui espère être exploré et la perception de ce paysage dépend du pouvoir créatif de chacun. Là, je me suis sentie plus libre, je me sentais mieux, moins soucieuse et j'exerçais un travail de dénaturalisation de la réalité et déconstruisant l'image de la violence et de la dégradation. Là, j'ai adopté comme prérogative les propositions de Canevacci de vouloir se perdre, d'avoir plaisir à cela, de s'accepter comme étranger et déraciné. C'est dans cette incursion, donc ce plongeon anthropologique, ce n'est que le début de ce processus. Mais cela a vraiment été un grand plaisir pour moi. Et c'est à travers cette méthode, et c'est là que je parle de l'attitude du chercheur sur le terrain, que j'ai pu prendre contact avec ce qui se passait dans ce territoire. Une des activités que nous avons réalisées à la Plaza de la République d'éducation environnementale, je me souviens qu'il y avait une personne qui est venue spontanément me parler. Et là, j'ai eu un contact et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est la première habitante avec laquelle j'ai contact. Et là, j'ai pu découvrir, elle m'a montré de façon spontanée tout le territoire et j'ai pu découvrir d'autres personnages. Et c'est ainsi, dans ce processus de bol de neige, que j'ai pu retrouver d'autres personnages et réaliser mes interviews. Et là, j'ai découvert qu'il y avait dans cette incursion, j'ai vérifié l'existence de plusieurs segments sociaux qui partageaient ces espaces publics, donc Praça da República, Vieira de Carvalho, Largo do Arroche, Praça Júlio Mesquita. Chacun de ces endroits constituait un scénario qui était approprié pendant la journée ou le soir par différentes communautés et personnages.
Qui, en délimitant leur territoire, finissaient par montrer ces espaces et produisant l'exclusion des autres et en configurant ainsi une situation de conflit où il y avait donc une lutte ou un combat pour le territoire. Et ces communautés, Oui, ça va? Está me ouvindo? Oui, je peux vous entendre, je peux vous écouter. Oui, ça va, vous m'entendez là? Vous m'écoutez? Ça va, vous pouvez m'écouter? Ça va? Oui, d'accord. Ces communautés montraient donc des caractéristiques plus marquantes. Vous avez droit à 3 minutes de plus. Un groupe de gens qui avaient des caractéristiques identitaires similaires. J'ai cherché les représentants de ces catégories d'identité sociale identifiées et les représentés ont été appelés personnages par les chercheurs. Et on a donc sélectionné 15 personnages, la leader de la communauté, présidente de l'association locale, qui m'a montré d'abord le quartier, un sans-abri, un enfant des rues, un travesti, des propriétaires de restaurants, un commerçant, un syndic, un gérant d'immeuble, un exécutif, un homosexuel, un avocat, un vendeur ambulant, un colporteur. Et cette mise en scène théâtrale a été la façon trouvée par le chercheur et narrateur-auteur pour réunir et conjuguer les différents personnages interviewés en une seule scène. Dans la construction de cette mise en scène théâtrale, le chercheur-auteur a créé un narrateur de ce qui arrivait, un narrateur des personnages qu'il a rencontrés, un narrateur en même temps auteur et de lui-même. En écrivant ce travail, les voix ont été multiples qui se sont manifestées, des voix qui venaient également d'un dialogue interne permanent qui inclut des mémoires, des désirs, des réflexions et des émotions qui peuvent être vues comme des métaphores de cette conversation. Comment a été fait ce processus pour écrire cette pièce de théâtre, pour constituer cela? C'est très difficile de décrire ce processus de création, pour écrire ce scénario. D'abord, j'ai fait une reconstitution des parcours faits avec chacun des personnages qui ont été interviewés. Ça s'est présenté comme une pièce théâtrale parce que je me suis rendu compte que chaque communauté s'appropriait et occupait cet espace public, soit une place, soit une rue. Je me suis rendu compte que pendant la journée, cet espace était occupé par certains personnages et pendant la nuit par d'autres. La situation de conflit entre les habitants locaux, les travestis, les homosexuels qui pendant la nuit déambulaient par cet espace ou réalisaient des fêtes là-bas existait, des conflits existants entre les habitants et les SDF qui les considéraient, disons, qui étaient considérés non désirables, les colporteurs, les enfants des rues, par le groupe du mouvement des squatters qui était une autre source de conflits également. Les rues donc devenaient vivantes, créant des mouvements, des regards, et les silhouettes surgissaient le soir avec les façades, les rues, les murs, et les chaussées se transformaient donc en scénario. J'essayais de comprendre comment ces paysages se transformaient en rêves, en émotions. On peut dire que c'est la dimension affective des ambiances, en même temps que j'essayais de comprendre l'intimité, la complexité des relations qu'il y a dans l'être humain avec son l'habitat quotidien par le moyen des pratiques sociales. Les images superposées et entrelacées sont devenues plus claires devant moi et j'observais la coexistence et cohabitation d'univers si divers. C'est comme cela que, devant mes yeux, j'ai identifié des scènes, chacune d'elles étant un épisode, un événement, une situation particulière portant des informations spécifiques à chacune sur sa scène propre avec des acteurs qui étaient en interaction avec leur paysage et leurs événements. J'ai trouvé des personnages qui s'exprimaient d'une façon claire et configuraient les différentes formes en fonction de plusieurs moments du jour et des nombreux événements. Et les paysages du jour étaient remplacés par ceux de la nuit. C'est comme ça qu'on a identifié les personnages dans ces groupes et dans la rencontre et dans les récits de chacun des personnages. On a vérifié la création de différents paysages et sa transformation en un scénario. C'est ainsi que le chercheur a créé un narrateur-auteur et a créé une pièce de théâtre. La pièce de théâtre a été une forme que nous avons, ou que j'ai trouvée pour décrire ce conflit et pour décrire l'occupation de cet espace par ces communautés diverses. Ceux qui auront la patience de lire mon œuvre, elle est disponible. Je récupère ici les paroles de quelques-uns des interviewés, la leader de la communauté, par exemple. Qui se plaignait de ce paysage indésiré qui était formé par les SDF, les sans-abri, devant son immeuble, un sans-abri qui se sentait exclu. Et une phrase qui a été assez forte pour moi, il disait, c'est la même chose que d'être sur une autre planète, être à la marge, disons, des événements. Nous avons ici le récit de la drag queen Tabitha Ravache et nous avons ici l'ambiance de cette rue pendant la nuit. Ça se transforme en une vraie scène de théâtre. C'est une fête pour ainsi dire et les paroles alors de la drag queen qui disait qu'elle aimait cet endroit et que le monde gay était fascinant et qu'elle adorait ce monde là. Et là, nous avons les paroles de l'exécutif, du cadre, qui disait que les sans-abri devaient être expulsés de cet endroit. Et ils disaient que ce n'était pas une question de fausse moralité ou de puritanisme en parlant des homosexuels, mais plutôt qu'ils se sentaient envahis par les homosexuels. Là, nous avons les paroles du président de l'association des habitants locaux qui voulaient inclure ceux qui étaient exclus, mais créer ainsi un conflit avec les autres habitants qui voulaient retirer ce paysage désirable de leur paysage habituel. Nous avons les mots là de la squatteuse, qui disait qu'ils ont plusieurs endroits, mais qu'ils occupent normalement les endroits qui sont vides. Et nous pouvons voir ici un fil où elle a voulu justement prendre une photo avec les vêtements qui séchaient au vent, parce que normalement les gens disent qu'ils rendent le paysage plus laid parce qu'il y a du linge mis à sécher. Et là justement le linge est mis à sécher plus bas que le parapet, justement pour ne pas rendre le paysage plus laid. Alors il y a cette préoccupation, ce souci. Et l'enfant des rues qui dit qu'elle ne veut pas la guerre, mais plutôt la paix pour tout le monde, et qu'en fait, les gens ont peur des enfants de rue. Nous avons donc des récits de ces gens, et donc suivre le regard du sujet a été une découverte de mon propre regard, parce que souvent, nous voulons seulement voir ce que nous voulons voir, et nous passons nos jours à ne pas regarder autour de nous, et alors je suis devenue également sujet de ce processus, et non pas seulement spectateur. Je soulève la question de l'autre, ce conflit qui se trouve justement dans l'autre, dans l'étranger. Et voilà, je crois que j'ai encore une minute, d'accord. Et enfin, j'ai seulement une minute, alors je vois ce que j'en tire. ça c'est le travail qui a été fait et je considère que c'était un diagnostic pour donner des instruments à une intervention, de voir une tentative pour réduire ce conflit au moyen d'une pièce de théâtre, un laboratoire social, en partant de l'hypothèse qu'en rendant cette connaissance disponible, il serait possible de créer une nouvelle connaissance ensemble avec d'autres personnes et comme ça créer une nouvelle politique et améliorer le sujet de la tolérance. C'est une intervention. Donc, alors pour conclure, et une autre question que je soulève, je ne veux pas présenter deux présentations ici, mais je voudrais soulever une question pour le débat. Je travaille surtout dans un organisme public où on a des projets d'intervention publique et il faut donner des réponses très rapides. Alors, récemment, j'ai soulevé cette idée de l'ambiance comme un instrument important pour aider dans ce processus d'intervention. Et normalement, j'explique à mon équipe de techniciens et d'ingénieurs cette question d'ambiance. C'est ce que je disais hier. Qu'est-ce que c'est qu'une ambiance ? D'un côté, on a tout ce qui est mesurable, l'air, l'eau, la terre, le sol, et tout ce qu'on a comme données subjectives, la perception de l'environnement, les activités, les pratiques sociales, etc. Alors, je dis une chose et l'autre, ça vous crée une ambiance. Alors, qu'est-ce que l'ambiance vous apporte, puisque, comme Searle, vous l'avez déjà, Joseph Newton Saint, qui soulève cette définition de l'environnement d'une façon... ou d'inverse comme une jonction du social et du culturel. Nous avons ici une hypothèse que l'on peut travailler avec l'environnement sur les indicateurs les plus quantitatifs et ainsi donner des incitations aux projets d'investissement et avoir des évaluations des projets qui ont été faits. Enfin, je vous demande pardon, je ne voulais pas prolonger trop longtemps ma présentation. Merci beaucoup.